Plaisir de lire, des pages ouvertes sur le livre.
Une idée originale de Aoussi Potin, montage technique et bruitage, Antoine Kouassi.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus à votre lecture radiophonique sur Radio de la Paix. Nous poursuivons aujourd'hui la lecture radiophonique du roman de l'écrivain ivoirien Amadou Koné, Les Frasques d'Ebinto. Sur insistance de sa mère, Ebinto se résigne à prendre Monique pour épouse. Avec pour seul diplôme le BEPC, Ebinto, après plusieurs tentatives infructueuses, est embauché comme contremaître pour le compte d'un grand planteur de bananes situé à Ayamé. Amer et révolté contre la vie, Ebinto se considère désormais comme un rien du tout et décide d'emprunter la voie du mal. Monique devient alors son souffre-douleur, taxé par lui d'être l'unique cause de tous ses malheurs. Perception égoïste et erronée du cours de sa vie, qui va pousser Ebinto à faire montre d'une indifférence cynique et glaciale à la mort de l'enfant, de leur enfant que portait Monique. Nous proposons donc aujourd'hui, amis auditrices et auditeurs, la suite de ce récit avec la lecture radiophonique du chapitre 3 de la partie 2. Retrouvez dans cette lecture radiophonique les voix de Sonia Nzian dans le rôle de Monique, Aoussi Potin dans le rôle de Ebinto, Junior Cardin dans le rôle du chauffeur, Ghislain Koulibaly dans le rôle de Monsieur Mouget et Zeynab Diomandé dans le rôle de Madame Kaboré. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne écoute de notre lecture radiophonique.
Les frasques d'Ebinto, partie 2, chapitre 3.
Je m'étais montré presque insensible à tout ce qui était arrivé. Madame Kaboré soignait Monique. Elle racontait à son mari ma conduite inhumaine.
On dirait qu'il veut tuer sa femme.
Un jour, je fus convoqué par M. Rouget. Quand je me présentais devant lui, je le trouvais assis à sa table de travail. Il semblait soucieux et n'avait pas cet air tout militaire dont il s'était fait une seconde nature.
Asseyez-vous.
Je m'assis.
Je vous ai appelé à propos d'une affaire particulière. Je suis assez âgé et je puis être votre père. Vous me permettrez d'entrer dans votre vie privée.
Je vous écoute.
Madame Kaboré est venue me voir et m'a prié d'intervenir auprès de vous pour que vous ménagiez un peu votre femme. Elle m'a tout raconté. Je ne peux pas vous obliger, mais je voudrais seulement vous donner des conseils.
Je l'écoutais parler et j'avais envie de sortir du bureau et de claquer la porte par derrière.
Quelles que soient les raisons de votre attitude vis-à-vis de votre femme, je vous prie de croire qu'elle souffre plus qu'elle ne vous a fait souffrir. Toujours, on regrette plus tard d'avoir pris plaisir à faire mal. Pardonnez-lui le mal qu'elle vous a fait.
Le mal qu'elle m'a fait, on ne peut pas l'évaluer. Elle a brisé ma vie, déçu mes ambitions, fait de moi un malheureux petit contremaître de campagne perdu dans la brousse, ignorant même ce qui se passe dans le monde.
Le bonheur consiste dans l'égalité des désirs et des forces.
J'ai lu Fromentin moi aussi. C'était au moment où je croyais encore à l'avenir, au moment où je pensais pouvoir vivre un jour.
Il ne tient qu'à vous de vivre.
Ceux qui vivent, ce sont ceux qui attendent quelque chose de la vie.
Ce quelque chose qu'on attend, il faut lutter pour l'avoir. Et Hugo l'a dit avec raison, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Savez-vous seulement ce que c'est que le bonheur ?
J'ai cherché une définition, mais en vain. Aucune citation ne me venait en mémoire et j'en eus honte.
Voyez-vous, j'ai été jeune comme vous. J'avais des ambitions. J'étais riche, j'avais toutes les possibilités et puis la guerre est venue. J'ai alors tout perdu. Enfin, après beaucoup d'autres vicissitudes, je suis aujourd'hui un planteur. Durant ma vie, j'ai longuement réfléchi sur la vie et le bonheur. Je suis arrivé à une conclusion qui est en elle-même un sujet de méditation. La vie est absurde. Car voyez-vous, ceux que les personnes dites censées appellent malheureux sont en fait heureux. Les jeunes gens insouciants qui s'étourdissent dans les plaisirs sont heureux. L'ivrogne qui boit, tombe dans un fossé et y dort est aussi un bienheureux. Oui, tout cela, n'étant pas conscient de leur misère, croient à l'illusion d'être heureux, et ils le sont, car qu'est-ce que donc que le bonheur ? Une illusion que nous poursuivons en vain ? La joie est du bonheur, un peu plus éphémère, et quoi qu'on dise, le bonheur n'est lui aussi qu'un état passager, comme toute illusion. Le bonheur est tout près de nous, et savoir garder l'illusion d'être heureux, tout est là.
Je ne pense pas que le vrai bonheur soit une illusion, sinon la vie s'arrêterait au rêve d'être ce qu'on veut être.
Vous avez toute la vie pour méditer sur la question. En tout cas, j'insiste pour que vous ménagiez votre femme et sachez que vous aussi, vous avez tout pour être heureux.
Je pris congé de Monsieur Rouget. À partir de ce jour, je m'adoucis. Je fis plus attention à Monique. Je me rendis souvent à son chevet, mais elle ne me parlait presque jamais. Ma présence près d'elle troublait plutôt son calme. Elle me regardait avec effroi et restait dans un mutisme qui m'agaçait. Cependant, Monique se remettait lentement. Elle resta 3 mois au lit. Puis, petit à petit, son état s'améliora. Elle se releva, s'habitua de nouveau aux travaux du ménage. Mais très tôt, je compris que quelque chose était changé en Monique. C'était comme un manque de vie. Quelquefois, elle fixait un endroit où il n'y avait rien de remarquable. Souvent, quand je lui parlais, elle écoutait sans rien comprendre, comme une idiote. Et elle disait...
Pardon, tu disais quoi ? Je n'ai pas compris.
Certains jours, je devenais doux et essayais d'amuser la jeune femme, mais jamais elle ne souriait. Elle avait perdu le sourire. D'autres jours, par contre, mon animosité se réveillait et je me montrais grossier et amer. Mais ma colère, mes insinuations blessantes semblaient ne plus avoir d'effet sur Monique. Elle les écoutait, semblait ne pas les comprendre et disait
« Pardon ».
En fait, Monique vivait près de moi, mais elle était absente, indifférente à tout. Cette attitude ambiguë me glaçait de froid et me faisait réfléchir. À quoi est-ce que je pensais au juste ? En tout cas, pas à Muriel. Je crois que je l'avais oublié tant j'étais absorbé à assouvir ma vengeance. Mais si je l'avais oublié, si sa pensée ne me mouvait pas, c'était donc que je ne l'aimais plus. Ah oui, il est arrivé un moment où je ne savais plus ce que je voulais, où je ne voulais plus rien. Ce fut quand je compris l'inutilité de ma vengeance. Ce fut quand le monde m'apprit que je n'y avais encore rien compris. Pourtant, mon Dieu, j'ai essayé de comprendre. J'ai seulement rejeté l'idée que le bonheur s'acquiert par la faculté d'adaptation aux situations que les circonstances fortuites nous réservent. Un soir, je me sentis pris de frissons soudains. Je résistais à la fièvre, mais le lendemain, je fus obligé de garder le lit. J'avais mal à la tête et aux articulations de mes membres. Ma bouche pâteuse avait un goût amer. Ma gorge était sèche. Le 3e jour, mon état ne s'améliora pas malgré les comprimés de Nivaquine que Monique m'avait fait prendre. Je grelottais de froid alors que je transpirais. Je faisais d'affreux cauchemars et je divaguais. Madame Caboret, qui était devenue l'amie de Monique, diagnostiqua que c'était du diacoyo. Elle poussa la bonté à me préparer le remède qui avait guéri son mari. Elle apporta les feuilles et l'écorce d'un arbre. On me mit la sève rouge sur les ongles, puis on mit les feuilles et l'écorce à bouillir dans un canari. Quand tout eut bien bouilli, on renversa la décoction dans un seau. Je m'assis sur un tabouret près du seau et je fus recouvert par un grand drap. Je fus baigné par la vapeur et quand on me découvrit, je transpirais à grosses gouttes. Ensuite, je me lavai avec la décoction refroidie. J'en bus quelques gorgées, elle était amère. Ma santé ne s'améliora pas immédiatement. Tout en suivant le même traitement, je gardais le lit. J'étais extrêmement faible et je ressentais une très grande fatigue. Mes muscles refusaient de faire le moindre effort. Mais avec le temps, je commençais à reprendre mes forces. Monique était toujours près de moi. Elle était douce et affectueuse, mais toujours silencieuse. Un jour, je lui demandai de me faire la lecture et elle choisit Les Misérables de Victor Hugo. Elle se mit à lire, à parler de la misère humaine que Hugo a si bien peinte. J'ai écouté Monique et il m'est venu à l'idée que j'étais moi aussi un misérable d'une manière ou d'une autre. Bien sûr, Jean Valjean est un misérable. Javert aussi, Thénardier pis encore. Seulement, il y a des nuances à leur misère. Certains essaient de sortir de la boue dans laquelle la nature les a mis, de lutter pour le bien et d'atteindre un certain idéal, ainsi Jean Valjean. D'autres croient toucher à l'idéal, mais sans le savoir. Ils sont misérables par leurs agissements inhumains. Javert, par exemple. D'autres, par contre, plongent tête baissée dans le crime et connaissent la misère sous toutes ses formes. C'est le cas de Thénardier. Mais moi, en quoi étais-je comparable à ces personnages? J'avais voulu une vie idéale, certes, mais que j'aurais pu réaliser si des circonstances encore banales n'avaient pas détourné le cours de cette vie? De ma déception était née la misère, la vraie misère, celle de l'âme. J'étais tombé bien bas dans la bassesse morale jusqu'à m'acharner sur Monique. La voix de la jeune femme me berçait, mais je n'écoutais pas ce qu'elle disait. Je jugeais la société, la méprisant, la rendant responsable de la souffrance humaine et oubliant que ce sont les hommes qui font la société, donc qui sont responsables de leur propre misère à cause de stupides préjugés, d'idées fausses, de vénalités. Je commençais seulement à avoir honte de ma conduite vis-à-vis de Monique. Deux semaines s'étaient écoulées et je me remettais lentement. Le soir, Monique me faisait faire de courtes promenades sur la route bordée de verdure. Nous marchions doucement. Encore faible, je m'appuyais sur Monique et j'éprouvais une douce sensation au contact de son corps. Quelquefois, nous nous arrêtions au ruisseau qui était tout juste à la sortie de la plantation. Nous écoutions le flot rouler sur les galets verdis par la mousse. Je posais ma tête fatiguée sur l'épaule de Monique et j'aimais écouter le battement régulier de son cœur. « Monique, pourquoi es-tu toujours silencieuse? Parle un peu, dis quelque chose. »«
Mais je suis bien ainsi. »«
J'ai besoin de ta voix, Monique. Elle me fait plaisir. » C'était vrai. Sa voix me faisait plaisir. J'avais besoin de sa présence et de sa chaleur. Je le lui disais et j'étais surpris de voir qu'elle ne sautillait pas de bonheur. Elle gardait son attitude calme et d'un ton doux et égal, elle me répondait.
Je suis heureuse que ma présence près de toi te fasse du bien.
Un jour, comme nous n'avions plus de provisions, Monique décida d'aller à Boisseau acheter le nécessaire. Un camion chargé de bananes et qui allait jusqu'à la ville devait la prendre. Je suis vraiment navré de ne pouvoir aller moi-même faire ces achats, Monique. Je ne voudrais pas que tu ailles souffrir en ville à chercher des portefeuilles pour transporter ce sac de riz.
Oh, tu sais, cela ne fait rien. C'est la vie et il faut tout accepter jusqu'à un certain point.
Tout accepter, elle l'avait fait, elle. Accepter et lutter, c'était l'essentiel. Et je ne l'avais pas compris. Monique partit. J'étais encore en convalescence et je n'avais pas repris le travail. Je restais donc seul à la maison. Tout était calme autour de moi et cela m'indisposait. J'avais peur du silence parce que j'avais peur de réfléchir. L'absence de Monique me pesait plus que je ne l'aurais imaginé. Je compris peu à peu que malgré ma haine, je m'étais habitué à ma femme et qu'elle faisait étrangement partie de moi-même. Je me mis à flâner dans la maison et eus l'idée d'aller chercher un livre dans la vieille caisse où je conservais les volumes que j'avais amenés d'Akounoubé. Cela me fit du bien, de revoir des livres que j'avais dévorés autrefois. Depuis combien de temps n'avais-je plus ouvert un roman, un recueil de poèmes? Depuis que je ne croyais plus tirer quelque chose des livres qui me servaient dans la vie. Je continuai de fouiller la caisse et je fus surpris d'y découvrir le Phédon de Platon. Un livre dans lequel seule une anecdote m'avait intéressé. C'était le mythe du chant du cygne. Je lus ces lignes. Quand ceux-ci, les cygnes, sentent en effet venir l'heure de leur mort, le chant qu'ils avaient auparavant, ce chant se fait alors plus fréquent et plus éclatant que jamais dans leur joie d'être sur le point de s'en aller auprès de Dieu dont ils sont les servants. Mais les hommes, avec leur effroi de la mort calomnie jusqu'au cygne, ils se lamentent, dit-on, sur la mort. La douleur leur inspire ce chant suprême. Je refermai le livre. Je me dis qu'il se pourrait que je chante moi aussi si j'étais près de la mort. Tout est si absurde. Et quand on découvre l'absurdité de la vie, on ne peut vivre qu'à la condition d'avoir un idéal et assez d'espoir pour l'atteindre. Il faut de l'espoir. Mais il ne faut pas passer son temps à le poursuivre, car alors l'espoir devient un but. On ne vit plus, on attend de vivre et on est surpris par sa fin. Le soir tombait sur la plantation. Monique n'était pas encore revenue. Elle attendait sans doute le camion de bananes puisqu'il n'y avait pas d'autres occasions. Je me mis à marcher lentement sur la route, pensant rencontrer le camion. Il n'en fut rien. La nuit tomba et plongea la plantation dans une obscurité opaque. Des lampes tempêtes éclairaient les cases des manœuvres et leur faible lueur se répandait sur les seuils. Seul chez moi, je marchais de long en large. Monique n'était pas encore rentrée. Le camion était en retard et ce fait inhabituel m'angoissait. Que pouvait-il être arrivé ? À mesure que la nuit avançait, mon angoisse grandissait. Je me sentais très nerveux. Une chaleur subite m'habitait et une sueur froide mouillait mon corps. Soudain, le bruit d'une automobile se fit entendre. Le ronronnement du moteur grandissait et les phares trouaient la nuit obscure. Ils arrivaient. Le poids lourd s'arrêta. Malgré ma faiblesse, je me ruai près de lui. « Monique !» Je n'eus pas de réponse. Le chauffeur descendit de la cabine. Il était seul. « Où est Monique ?»«
Ah, bonsoir, monsieur Binto. Justement, c'est madame qui a causé tout ce retard. Elle a fait les achats et puis elle est partie je ne sais où. J'ai attendu tout le temps. Elle est revenue très tard, m'a remis cette lettre pour vous et puis elle est partie. »
Je pris la grande enveloppe que l'homme me tendait. Mon cœur battait à se rompre. J'avais peur de comprendre.
C'était plaisir de lire des pages ouvertes sur le livre. Votre rendez-vous hebdomadaire consacré aux livres et à la lecture.
Une idée originale de Aoussi Potin, montage technique et bruitage, Antoine Kouassi.